du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Encore un petit tour à la campagne, avec ce semeur. Évidemment, autrefois, ça se faisait à la main, n'est-ce pas ? C'était pas des champs de plusieurs hectares. Et encore, quand on dit quelques hectares, c'est par chez nous, c'est raisonnable. Mais si vous allez dans la Beauce ou dans l'Abri, là-bas, c'est... Il y a des dizaines et des dizaines d'hectares, des champs qui font peut-être 40 hectares. Hein. Bon. Alors, il n'y avait pas eu le remembrement. Vous avez les anciens, pas les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Vous savez, le paysage était beau, hein, avant le remembrement. Il y avait des petits chemins partout, des petits champs, des... Je sais bien que pour l'agriculture, c'était pas très commode. On pouvait pas mettre les gros tracteurs là-dedans, mais enfin, c'était les chevaux, les bœufs qui faisaient le travail. C'était une autre époque. Alors, évidemment, oui, des petits champs. Donc, il fallait faire attention quand on semait sa graine, voyez-vous. Parce que si on était étourdi, qu'on balançait ça comme ça, madame, comme les champs n'étaient pas carrés, forcément, ou rectangulaire, vous pouviez envoyer ça chez le voisin, dans la haie, dans une mare, là, parce qu'il y avait aussi des mares pour abreuver les vaches. Donc il fallait faire attention. Et nous voyons donc dans l'évangile d'aujourd'hui que la semence va tomber en quatre endroits différents. Va tomber sur la route, il y a toujours un petit peu qui tombe. Hein ? Je fais juste un petit parallèle. C'est pourquoi même le prêtre, vous voyez, quand on prend dans nos deux doigts, le pouce là, et l'index, l'hostie consacrée, entre le ciboire et votre bouche, c'est sûr qu'il n'y a pas un kilomètre. Il y a quelques 10 ou 20 centimètres. Mais ça suffit pour que des parcelles tombent par terre. Et donc l'Église, depuis les origines, fait une obligation grave, c'est pas quelque chose de, si on veut, hein, comme on dit nous en latin, de libitum, c'est strictement obligatoire d'utiliser un plateau pour recueillir les précieuses parcelles qui pourraient tomber par terre. Donc, vous imaginez le semeur, hein, qui prend la semence, non pas entre le pouce et l'index, mais à poignée, évidemment, qu'il en tombe quelques graines sur la route. Hein. Bon, la route d'autrefois, c'est pas la route goudronnée d'aujourd'hui. Enfin, c'est quand même, imaginez les routes faites par les Romains, empierrées, d'une façon très rigoureuse. C'est pas sur la pierre, hein, que la graine va germer. Et puis, il y a de la graine qui va tomber un petit peu sur le bas-côté de la route. Bon, alors là, il y a un petit peu de terre, mais enfin, c'est pas là qu'on fait des cultures. Hein. Donc, très peu de terre. Et puis, les animaux, ça encore, les anciens, vous avez connu comment, quand on menait les vaches au pré autrefois, sur la route, on prenait son temps, comme ça, et broutait sur le bord de la route, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Bon, ben, imaginez-vous qu'il y a des plantes qui poussent là, hein, elles sont aussi mangées par les vaches. Donc là, il n'y a pas d'espoir possible sur le côté, là, de la route. Et puis, il y en a aussi qui vont tomber, voilà, plus profondément dans la rigole, enfin, le fossé, hein, où en plein hiver l'eau ruisselle, alors là évidemment, surtout l'hiver il y a de la fraîcheur, enfin, même l'été si oui, il y a plus de fraîcheur. Cependant, il y a beaucoup de mauvaises herbes là, hein, que ce soit des épines, que ce soit des orties, que ce soit, ça dépend de la région où on se trouve. Mais enfin, la mauvaise herbe aime bien pousser dans le fond des fossés. Là aussi, c'est pas l'endroit qu'il faut, parce que la petite graine de blé va être vite étouffée par les mauvaises herbes. Et enfin, heureusement, il y a la semence qui va tomber dans le terrain qui a été apprêté, labouré, hercé, roulé, tout ce que vous voulez. Et là, il va prendre racine, on va veiller à arracher la mauvaise herbe en orientant, et d'abord produire du feu. Cette parabole que notre Seigneur nous propose, ce n'est pas simplement pour nous apprendre à semer le blé ou l'avoine. Hein. Non. C'est une analogie, si vous voulez, pour nous faire réfléchir sur cette semence qui est autre chose, qui est la parole de Dieu. Cette semence que le bon Dieu envoie sur toute la terre. Pour les hommes, cette parole de Dieu, elle est pour les hommes, elle n'est pas pour les anges. Les anges, leur question est réglée, c'était avant les hommes. Ils ont eu leur épreuve, un certain nombre s'est révolté contre Dieu, c'est fini à tout jamais pour eux. N'allez pas croire les boniments de certains révisionnistes de la théologie, hein, qui voudraient vous dire que à la fin du monde, le bon Dieu est tellement bon que, allez, on efface tout et on met tout le monde au paradis. Ça, ce sont des boniments. Les anges rebelles resteront toujours en enfer. Ceux qui se damnent, si vous vous damnez, vous ne sortirez jamais. Réfléchissez bien à la question et prévoyez la chose. Vivez selon Dieu saintement. Parce que le bon Dieu ne va pas vous donner une deuxième vie, ou une troisième, comme racontent encore les autres tordus là, qui croient à la métempsychose, à la réincarnation. Tout ça, ce sont des bobards du démon. Vous n'aurez pas une deuxième ou une troisième chance. Si vous mourrez en état de péché mortel, c'est cuit à tout jamais. Non, cette parole de Dieu est donnée uniquement pour les hommes. Et cette parole de Dieu, au fond, nous ne la vénérons pas suffisamment. Certes, vous avez le monde protestant qui, d'une façon désordonnée, je dirais, met la parole de Dieu, la parole écrite, hein, le livre, au-dessus de tout, et méprise la parole transmise, si vous voulez, la tradition. Et là, il y a un grand point de discorde avec l'Église catholique. Les sources de notre foi ne sont pas uniquement la Bible, mais la tradition. La tradition orale, ce qui s'est transmis par les apôtres, aux évêques, depuis 2000 ans. Ça, ce sont les deux sources de notre foi. Par sa parole, Dieu ne va pas nous faire un cours d'histoire, même s'il y a des passages historiques qui ont une valeur historique dans la Sainte Écriture. Quand Dieu nous dit, dans la Genèse, les choses, alors, bien sûr que ça reste pour nous un petit peu mystérieux, mais il faut faire acte d'humilité et ne pas chercher forcément à tout comprendre. Il y a des zones d'ombre, c'est certain. Les orgueilleux vont se fracasser le crâne sur la Sainte Écriture et se damner. Il faut une bonne dose d'humilité quand on lit la Sainte Écriture, parce que je vous dis, dans l'Ancien Testament, il y a des éléments qui nous échappent, évidemment. Et si vous voulez chercher la petite bête, je vous dis, vous allez vous fracasser la tête. En tout cas, ces premiers chapitres de la Sainte Écriture ont une valeur historique, même si on ne donne pas dans tous les détails des informations. C'est historique qu'il y avait le paradis terrestre, c'est historique que Dieu créa un être humain au tout début, Adam, c'est historique qu'il va tirer du côté d'Adam sa future épouse, elle, c'est historique qu'il y a eu Caïn, Abel. Après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas décrites. Hein. Mais, je vous répète, la Sainte Écriture, ce n'est pas un cours magistral d'histoire. La Sainte Écriture, ce n'est pas un traité de philosophie ou de mathématiques ou de géographie. Non, 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 non. Bon, c'est sûr qu'on nous parle de certains fleuves, l'Euphrate, hein, le Tigre, bon, mais juste comme ça, en passant. La Sainte Écriture, c'est la parole même de Dieu qui nous enseigne sa volonté pour que nous puissions nous sauver. Ce n'est pas du blablabla pour nous occuper l'esprit, pour nous distraire. Si vous voulez vous distraire, vous lisez Astérix, Tintin et Milou, ou d'autres bandes dessinées à peu près correctes. Mais le bon Dieu, en nous donnant la Sainte Écriture, ce n'est pas pour nous distraire, c'est pour nous instruire sur les choses essentielles, à savoir comment faire pour sauver notre âme, pour être dans la véritable barque de l'Église et sauver notre âme. Saint Grégoire nous dit que la Sainte Écriture, c'est un petit peu comme si Dieu envoyait des missives, des lettres, à la fois individuelles et collectives. Individuelles parce que la Sainte Écriture, c'est pour chacun d'entre nous. On ne peut pas dire, oui, ben la Bible, la Sainte Écriture, ça va pour les prêtres, ça va pour les bonnes sœurs, pour... Enfin, nous, on n'a pas besoin de ça. Bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, les gens ne savaient pas lire. Donc, heureusement qu'il y avait les commentaires de la Sainte Écriture qui étaient faits par les prêtres le dimanche, lors du prône. Hein. Mais bon, les choses ont évolué. Maintenant, enfin, à part les petits poupons qui sont dans les bras de leur maman, vous savez tous lire. Il y a eu l'imprimerie, ça fait déjà plusieurs siècles, et donc les livres ont été imprimés. C'est encore une époque où il n'y avait pas les livres. Hein. Il y avait quelques parchemins conservés dans les monastères, etc. Mais alors, ce n'était pas le commun des mortels qui avait les parchemins à la maison. Hein. Bon, maintenant, les livres, ça pullule, les librairies, tout ça, puis vous avez même ça sur Internet. Même plus besoin de livres, hop, on peut lire la Sainte Écriture sur Internet. Donc c'est pour chacun d'entre nous. Et en même temps, c'est pour toute l'humanité. Parce que toute l'humanité est destinée à connaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu, pour se sauver. N'oublions pas que notre Seigneur nous a dit dans l'Évangile, « Je suis la vérité ». Il a dit plus précisément la voie, la vérité et la vie. Mais la vérité, elle est là, dans la parole de Dieu, la parole écrite et aussi dans la parole prêchée. Mais arrêtons-nous plus spécifiquement aujourd'hui sur la parole écrite. Quelle bêtise! Pour certaines personnes, de passer toute leur vie à chercher la vérité, soi-disant la vérité scientifique, ou même philosophique. Mais attention, la philosophie c'est bien, à condition que ça nous mène à la théologie, au dogme, à Jésus-Christ. Les grands philosophes de l'ancien temps, il y en a eu, hein. Platon, Aristote, et tous les autres. Et puis des philosophes le plus modernes, idéalistes. Hein. Kant, aujourd'hui, si vous faites les grandes écoles, on va vous parler de Kant. Hein, beaucoup encore que celui-là. Ou bien Fichte. Et d'autres. Leur philosophie ne mène à rien. Pire que rien. Comment est-il possible de greffer la vraie théologie, la parole de Dieu, sur une fausse philosophie? La philosophie de ces idéalistes-là, Fichte par exemple, qui dit que tout se passe dans notre tête. On pense qu'ici il y a un mur, mais est-ce qu'il y a un mur vraiment? C'est rien, c'est dans notre tête qu'on conçoit qu'il y a un mur. Vous voyez comme ils sont idiots ces gens-là. Bon, alors, on a envie de lui dire, mon cher ami, tu doutes s'il y a un mur, tu penses que c'est dans la tête qu'il y a un mur. Bon, recule de 10 mètres là, baisse la tête et fonce comme un taureau furieux dans le mur, tu vas voir s'il y a un mur. Tu vas t'éclater la tête, hein. Mais ils sont fous. Mais, passez la rigolade. Vous voyez un petit peu le drame après, quand on se dit, c'est dans ma tête, c'est seulement dans ma tête. Je ne sais pas si dans la réalité ça existe. Par exemple, le dogme de la présence réelle, le dogme de l'existence de Dieu, de l'existence des anges, de l'existence de l'enfer, c'est dans ma tête. Est-ce que ça existe vraiment? Mystère et boule de gomme. Vous voyez le grand danger de ces philosophes tordus. Il faut absolument, vraiment, bannir, écarter de nos études. Alors oui, ils sont complètement à côté de la plaque. Ceux qui vont passer leur vie à étudier comme ça des philosophies qui n'en sont pas, je dirais, des fausses philosophies. La vraie philosophie, celle d'Aristote, saint Thomas d'Aquin, qui nous conduit à la foi, à la théologie. Saint Augustin fait un parallèle, même, entre la parole de Dieu et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, moi aussi, je fais un petit parallèle en parlant de la distribution de la Sainte Communion. Et ça n'est pas anodin. Saint Augustin ne craint pas de dire « la parole de Dieu n'est pas moins excellente pour nous, pour notre âme, pour notre esprit, que le corps adorable de notre Seigneur Jésus-Christ que nous recevons dans la communion. » La parole de Dieu va éclairer notre esprit, va nous ancrer profondément dans la foi, dans la vérité. La Sainte Eucharistie, le corps adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, va nous unir à Dieu dans la charité, dans l'amour. Donc vous voyez que cette parole de Dieu, dont nous sommes quelquefois distants, si je vous posais la question, mais je vous la pose en général, vous allez répondre dans votre cœur. Qui parmi vous ouvre de temps en temps, je ne vais pas vous demander tous les jours parce que peut-être bien qu'il n'y aurait personne à me répondre, mais enfin, la Sainte Écriture. Vous avez probablement une Bible, une bonne chez vous, hein, ancienne. Est-ce que vous ouvrez de temps en temps la Bible, éventuellement pour lire le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est plus proche de nous, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, les épîtres des apôtres aussi, tout ça, et c'est très, très nourrissant pour notre vie spirituelle. Peut-être qu'il y a bien longtemps que vous n'avez pas ouvert la Bible. À ouvrir le journal, rubrique nécrologique, qui c'est donc est mort, ou bien on en est où dans la politique, hein? Très intéressant la politique, oui, mais les politiques passeront, ils passeront, la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, tout ça va passer. La parole de Dieu ne passera pas. Et si on passe à côté de son salut éternel, hein, eh ben, comme dit l'autre, ça vous fera une belle jambe d'avoir été dans le camp de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou du centre ou de ce que vous voulez. Ça prime, évidemment. On ne redira pas ce qu'un grand homme disait. Politique d'abord. Non, 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 c'est pas politique d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est le salut de notre âme d'abord. Alors oui, de même que l'Église nous demande de nous approcher humblement, en état de grâce, le plus souvent possible, de la Sainte Table pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devrions d'ailleurs avoir honte de constater que les protestants lisent beaucoup plus la Sainte Écriture que nous. Nous devrions prendre cette résolution, voilà, ne serait-ce que 10 minutes. Mais la lecture spirituelle, la méditation, c'est pas fait que pour les prêtres et les religieuses, c'est pour chacun d'entre nous. Alors d'accord, les religieux, tout ça pourront faire une demi-heure, trois quarts d'heure, bon, vous pouvez pas vous permettre si vous avez votre travail, tout ça, mais quand même, 10 minutes, vous n'allez pas réussir à trouver 10 minutes en laissant le téléphone loin de vous pour ne pas l'entendre. Et écoutez cette parole de Dieu. Tant de choses merveilleuses. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et encore, vous savez, il y a des paroles humaines qui sont magnifiques. Si vous écoutez, mesdames, en faisant votre vaisselle ou en faisant votre passage, parce qu'on ne peut pas tout faire ensemble, hein. Si vous êtes avec le fer à repasser, là, vous ne pouvez pas avoir le bouquin de l'autre main et tout ça. Non. Mais c'est très pratique, Internet. Vous pouvez vous connecter sur des lectures audio, par exemple l'imitation de Jésus-Christ en audio. Alors vous triez, parce que des fois il y a avec le tutoiement, je ne sais pas toujours très... Mais il y a des versions qui sont tout à fait traditionnelles. Ben, tout en repassant, pliant les chemises de monsieur, tout ça, les mouchoirs, les draps, vous entendez. La parole, non, là, c'est pas la parole de Dieu, l'imitation de Jésus-Christ. Hein. Mais ce sont quand même des paroles admirables qui peuvent nous servir pour notre salut éternel. Mais il existe aussi en audio la Sainte Écriture. Hein. Donc vous voyez que, au fond, on n'a pas vraiment d'excuses. On dit que, ah oh ben non, je peux pas, je suis débordé. On n'a pas la volonté. On n'a pas la volonté. Quand on a la volonté, on trouve les 10 minutes dans 24 heures. Sinon, on n'est pas sérieux. Alors, c'est surtout cela que je voudrais vous dire ce matin. Faisons un effort. Nous allons entrer dans le carême bientôt, puisque dimanche prochain c'est la quinquagésime, et puis arrive le mercredi décembre, hop là, c'est le grand jour. L'ouverture du carême avec le mercredi décembre. Eh bien, préparez-vous, je ne dis pas tout de suite aujourd'hui, hein, préparez-vous, réfléchissez comment vous allez vous organiser, si par exemple vous êtes organisé, mesdames, pour le repassage, mais messieurs, les dames qui vont quand même écouter la Sainte Écriture en faisant le repassage, messieurs, vous en avez bien besoin. Bon, voyez comment vous pouvez organiser les choses pour écouter cette parole de Dieu qui va faire du bien à votre âme. Ça ne peut pas faire autre chose que de faire du bien à notre âme pour que d'ici l'entrée dans le carême, d'ici le mercredi décembre, vous avez encore un certain nombre de jours, hein, eh bien, vous puissiez vous roder, vous caler, hein, pour pouvoir faire quelque chose qui va vous permettre de faire des progrès dans la vie spirituelle, qui va vous attirer puissamment vers le bon Dieu. Alors demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Vous savez, la Sainte Vierge, elle écoutait. Elle n'aurait pas voulu manquer une prédication de son divin Fils. Eh bien, ne nous contentons pas du minimum, c'est-à-dire de quelques commentaires que font les prêtres. Bon, chacun avec ses faiblesses, chacun avec ses limites, que voulez-vous, le dimanche. Hein. Ne nous contentons pas de ça, d'autant que c'est pas beaucoup, hein. Parce que là, tout à l'heure, on parlait hein, des minutes en 24 heures, mais même si le prêtre est un petit peu long, 20, 25 minutes, le dimanche, une demi-heure, pour une semaine, vous savez, hein, c'est pas énorme. Si vous aviez vécu à l'époque de Bossuet, les sermons de Bossuet, Massillon, tout ça, bon, ne vous inquiétez pas, les gens, ils n'avaient pas leur monde pour regarder. Il regardait à travers les vitraux, où on était le soleil, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, ils ne se plaignaient pas. Les premiers chrétiens qui passaient toute une partie de la nuit en prière, ne se plaignaient pas. Le temps passé avec le bon Dieu n'est pas du temps perdu. Souvenez-vous de ça. Le temps passé avec le bon Dieu n'est pas du temps perdu pour notre salut éternel. Eh bien, c'est la grâce que nous allons demander de bien comprendre cela pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.